France Inter.
Scénariste, réalisatrice, actrice, metteuse en scène, chanteuse, auteure et présidente de la Cinémathèque de Toulouse, Agnès Jaoui a enchaîné à ses débuts le cours Florent vers 14 ans à 14 ans. Le chant au conservatoire, une hypocagne au lycée Henri IV, quelques désillusions humaines au théâtre des Amandiers et une rencontre essentielle avec Jean-Pierre Bacri, disparu en 2021, avec lequel elle coécrira et jouera dans tous les films qu'elle réalisera. Le goût des autres, comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du compte et Place publique. Philippe Muil a adapté au cinéma leur pièce Cuisine et dépendance, Cédric Clapiche, Un air de famille, et Alain Resnais a fait appel à eux pour le scénario de Smoking, No Smoking, puis de nouveau pour On connaît la chanson dans laquelle ils jouent aussi. Voilà une importante partie de la vie d'Agnès Jaoui, mais heureusement nous en avons tous de multiples, et la Dame de Cœur a une œuvre foisonnante, pleine d'élan vital et de spleen enrobée de drôlerie à son image. Sa voix a vibré sur plusieurs albums et scènes dans différentes langues, elle a tourné pour des cinéastes comme Jacques Doyon, Patrice Chéreau, Karine Tardieu, Bruno Podalydès, Baya Kasmi ou Sophie Filière, et Ellipse et Avance Rapide a en ce moment une quadruple actualité, le livret d'un opéra adapté d'un roman cubain, la mise en scène de Don Giovanni, un concert pour son dernier album et un livre doublé d'une exposition intitulée « La taille de nos seins » avec la peintre Cécile Partouche. Nous détaillerons tout et ce n'est pas une menace, bien au contraire. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Agnès Jaoui.
Bonsoir Eva Bester.
C'est bien moi. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Oh, bah, je pourrais dire La Grazia, que j'ai vue avant-hier.
De Sorrentino.
De Sorrentino, cet acteur incroyable. Ah, et aussi les films que j'ai vus à la Cinéfabrique hier, là. 4 courts-métrages ou 5 courts-métrages, qui prouvent que l'avenir est assuré. Voilà.
Ah, c'est vrai, vous le pensez?
Par les jeunes cinéastes, oui, en tout cas.
Ah, mais c'est une bonne nouvelle.
C'est déjà pas mal, oui.
Ah bah oui. Vous avez eu un César d'honneur en 2024. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que moi, j'ai vu la séquence comme tout le monde à la télévision, et puis l'hommage qui vous avait été rendu par Jamel Debbouze.
Je me souviens d'un sentiment à peu près jamais éprouvé, et aussi en fait, de résister à ce sentiment pour ne pas m'écrouler. Enfin, tout était bizarre, quoi. Trop fort, en fait. À tout point de vue, je sais pas, quelque chose comme ça, et à la fois non, évidemment que j'adorais tout ce que disait, j'aime Jamel, donc oui, c'est voilà, c'est clair, non?
Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez du mal avec les émotions fortes?
Bah, j'ai du mal et en même temps je les recherche, donc j'ai pas tant de mal finalement.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre rôle comme présidente de la Cinémathèque de Toulouse que vous dirigez depuis 2021?
Oui. Alors d'un côté, c'est aider, enfin en tout cas, mettre en lumière le travail de toute une équipe, présidée par Franck Loiret, enfin bref, dirigée par lui, et puis avec plein de gens qui font des choses extraordinaires de transmission. Pour des jeunes, pour des publics éloignés, comme on dit, voilà, qui sont corps et âme voués à leur travail. Et puis aussi, c'est une des plus riches cinémathèques d'Europe. Il y a un grand fond de films russes, de films. Bon, bref, il y a. Et puis d'un autre côté, je vis ma vie de femme. Pas politique, mais enfin qui, voilà, je vais voir des gens, des hommes politiques, des femmes politiques, je vais faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire de ma vie, pour que la Cinémathèque de Toulouse continue à pouvoir œuvrer, puisque vous vous doutez que il faut pour ça des subventions de la ville, et que la culture, là comme partout, est toujours un peu menacée, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un mélange assez étrange, mais je suis contente de le faire.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
je décrivais plutôt ce que je lisais et ce que Agnès me disait aussi, ce qu'elle voulait qu'il soit dessiné ou pas. En suivant ce qui était écrit, c'est ça qui est venu. À part ça, c'est les collages, tout ça, c'est une façon de travailler habituelle pour moi, et je trouvais que ça, c'était bien, ça collait bien, c'est le cas de le dire. Et voilà, mais je pense que c'est le texte qui m'a... Et peut-être une petite nostalgie, parce que c'est notre enfance, peut-être.
Cécile Partouche, en 2024 à la librairie Mola, Agnès Jaoui, vous faites avec elle en ce moment La taille de nos seins, l'exposition conçue avec votre amie d'enfance et ancienne élève des Beaux-Arts de Paris, qu'on peut voir à la galerie Cinéma jusqu'au 28 février et qui part du livre autobiographique illustré paru en 2024 chez Grasset. C'était votre premier livre ?
Oui, absolument.
Et vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce projet ?
En fait, c'est l'éditrice Juliette Joss qui est venue me proposer d'écrire. On l'avait déjà fait, enfin, mais je voyais bien qu'en général, les gens voulaient mes journaux, dont j'ai beaucoup parlé. Non, Juliette a dit, mais non, écrivez ce que vous voulez. Et puis, au même moment, j'avais envie, enfin, Cécile m'avait proposé de commenter ses dessins, enfin, de mettre des collages qu'elle avait fait. Bon, bref, voilà. Tout d'un coup, je me suis dit, bah, très bien, on va faire quelque chose avec Cécile. D'abord, moi, j'aime bien faire des choses avec d'autres. Et puis, assez vite, en fait, est venue l'idée de parler de notre enfance, de notre rencontre, et aussi de ce moment entre les 7 et 10 ans, 7 et 11 ans, où nos corps changent, pas au même rythme les unes que les autres, et où ces 1000 premières fois, en fait, que j'ai vécu avec elle et mon amie Isabelle Deveau, qui sont toujours mes deux plus chers amis, enfin plus chers, les plus proches, et puis j'ai d'autres amis très chers, mais voilà, c'est mes presque sœurs, bien sûr.
Vous êtes fidèle en amitié ?
Très.
Alors, il paraît que vous avez tenu un journal à partir de la lecture du journal d'Anne Frank, et dans des interviews, vous dites que vous aimeriez le voir publié après votre mort, plutôt. C'est toujours le cas ?
Oui, tout à fait. Sauf si j'ai beaucoup besoin d'argent tout d'un coup vers 92 ans. Éventuellement, j'en publierai les premiers. C'est pas pour en faire quelque chose maintenant. Non.
En tout cas, dans cet ouvrage autobiographique, La taille de nos seins, il y a quand même une grande lucidité que vous avez sur vous. Et je pense notamment à cette phrase. À un moment, vous dites, en fait, j'ai souvent été horrible avec mes amis.
Oui, enfin...
C'est pas ce qui ressort.
Non, pas que, mais... Si je pense à l'enfance, mais pas seulement, enfin, mais notamment, c'est justement toutes ces premières fois où on est amoureuse du même garçon, où on est mise en compétition aussi pour la première place en classe, pour ceci, pour cela. Il n'y a pas que des sentiments. Enfin, moi, je ne me souviens pas d'avoir éprouvé que des sentiments nobles du tout. Je trouve qu'il y a des choses incroyablement cruelles. Les enfants peuvent être incroyablement cruels. Donc, il se trouve que je me souviens de ça aussi, de moments où j'ai. Ouais, j'ai, je. Et pourtant, je les aimais, mais. Et je les aime. Mais, des fois, la petitesse ou. Ce qui fait aussi qu'on est des êtres humains, gagne. On n'est pas tout le temps comme dans un roman de
voilà. Mais on a peu des romans où tout le monde
non,
est gentil.
Non, des petites filles modèles, je me rappelle plus d'où. De La Comtesse de Ségur.
Ah bah oui, c'est votre littérature préférée, ça.
Oui, en plus.
Vous la relisez ?
Je l'ai relue à mes enfants et ça vaut son pesant de cacahuètes. Enfin, c'est assez étonnant, cette littérature-là.
Alors, vous aviez déjà des débats enflammés dans la cour de l'école vers l'âge de 7 ans, et il y en a un qui m'a beaucoup intéressée, parce que votre amie Cécile trouvait qu'il fallait se brosser les dents avant le petit déjeuner, vous, après. Quel est le verdict aujourd'hui ?
Je pense après, oui, sauf si on veut embrasser son amoureux au réveil.
Oui.
Auquel cas, bon, faut vite aller se laver les dents, puis vite se remettre dans le lit, enfin, c'est très compliqué. Mais bon, voilà, à part ce détail-là, je pense que, vaut mieux après, pardon, hein, Cécile, mais je pense que j'avais raison, quand même.
Oui, je pense aussi, j'ai pas le droit de prendre parti, mais je le prends quand même.
Si,
oui. Alors, vous parlez de votre père dans ce récit qui est très fantasque et qui avait érigé la mauvaise foi en principe de vie et dont l'une des citations préférées était « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » C'est René Char. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oh, j'aime bien cette phrase, en tout cas. Oui.
Vous troublez, vous ?
J'espère. J'espère, en tout cas, faire réfléchir. C'est un bien grand mot, mais dans ce que j'écris, il y a toujours l'idée de montrer que peut-être les choses ne sont pas si simples, de peut-être... on peut se remettre en question, peut-être que les vérités ne sont pas si établies, que le conformisme n'a pas toujours raison, etc. Oui, en tout cas, j'aime ce qui bouscule, oui, ce qui remet en cause tout, en fait. Oui.
Alors, je vais vous parler d'un type qui a remis en cause la réalité, c'est Philippe K. Dick, puisque votre père vous a quand même lu une nouvelle de Philippe K. Dick, petite. Et ça a changé votre rapport au rêve.
Pas qu'une. Il était passionné par K. Dick et il nous a beaucoup parlé de son génie visionnaire complètement, hein, puisque les cinéastes l'ont bien compris, qu'ils s'en ont emparé aussi. Et effectivement, cette idée qu'il y avait on était dans une époque là où enfin plus tard où on pouvait il suffisait de dormir et ceux qui rêvaient de façon la plus grandiose, ils avaient un tube qui était directement lié à un écran et on pouvait voir sur écran leurs rêves. Et c'est vrai que on n'en est pas loin. Enfin, on est même très près.
Et vous notez vos rêves ? Vous avez un rapport spécifique à vos rêves ?
Je note certains rêves et surtout, mes amis le savent, je m'en souviens... énormément, donc parfois je les saoule au matin avec les 3 ou 4 rêves que j'ai fait dans la nuit. Mais c'est vrai que oui, j'ai l'impression d'avoir 2 vies, moi.
Alors il y a un truc qui est amusant, c'est que petite, vous pensiez qu'une caméra vous filmait en permanence, sauf aux toilettes. C'est donc une gentille caméra.
Ouais, bah oui.
Ça a disparu quand, ce sentiment ? Si, il a disparu.
Oui, il a disparu parce que j'ai un peu grandi. Mais... l'idée, je sais pas qu'on doit plus ou moins avoir tous, d'être quand même l'héroïne de ma propre vie, n'a pas complètement disparu. Ce pourquoi aussi j'écris, enfin... il se trouve que je vais pas sur les réseaux sociaux, je prends pas en photo mon repas, etc. Mais je prends quand même des photos, et l'idée de désespérer de retenir quelque chose de sa vie, d'avoir existé, je vois bien qu'en fait c'est partagé par tout le monde finalement, même ceux qui ne font pas des métiers pour être célèbres, mais plus ou moins en tout cas par tout le monde.
Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts, toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air.
Agnès Jaoui, on entend l'hôtesse de l'air de Jacques Dutronc, puisque vous rêviez d'être hôtesse de l'air, vous associez ça à l'époque à l'idée d'être belle.
Bah oui, les hôtesses de l'air étaient belles, elles le sont toujours, hein, pardon, ouais. Mais vraiment, il y avait l'idée à l'époque, dans les années 70, qu'il fallait, que c'était... c'était la gloire absolue de devenir hôtesse de l'air et de rentrer dans ces petits tailleurs si ravissants. Donc, ça faisait partie des fantasmes féminins qu'on m'avait inculqué, que la société m'avait inculqué, je ne sais pas.
Et après, vous vous dites même que vous avez voulu devenir comédienne pour de mauvaises raisons, d'abord pour ça.
Pour des mauvaises et des bonnes, parce que finalement, vouloir être aimé, est-ce que c'est vraiment une mauvaise raison ? Non, mais c'est vrai que quand on en a un besoin, peut-être plus fort que d'autres, ça peut devenir pathologique, évidemment. Mais c'était en tout cas pas que pour l'amour des grands textes et les transmettre aux autres, ça je peux pas dire ça, non.
Alors en parlant de beauté, à un moment vous dites du mal du caniche de votre amie Cécile qui ressemblait à un boudin noir frisé, je vous cite, et ça lui a fait de la peine de lire ce passage. Aujourd'hui on appelle ça du body shaming, vous avez body shamé un chien.
Il avait perdu ses poils, hein, c'est pour ça qu'il ressemblait à un boudin.
Et puis il est décédé, il n'a pas lu le livre.
Oui, mais je blesse quand même quelqu'un qui a beaucoup aimé ce chien et qui effectivement ne voyait même pas s'il avait des poils ou pas, parce que c'était, elle le voyait avec des poils, c'était son couic Et donc, je suis désolée de l'avoir blessé, même maintenant. Mais bon, il fallait bien que j'écrive les choses telles que je les voyais.
C'est vrai,
aussi.
Il s'appelait Quick. Alors, en parlant de la recherche de la beauté, c'est aussi, ce fut pour vous le terreau d'une tragédie. C'est le chapitre qui s'intitule Le Secret. Est-ce que vous voulez en dire un mot ou vous préférez que les lecteurs le découvrent?
Oh oui, les lecteurs le découvriront.
D'accord. Alors, j'enchaîne avec la question suivante. Et donc, chers auditeurs, imaginez qu'on vient de vous révéler ce dont il s'agissait. Quel est votre rapport au corps? Parce que vous dites, Agnès Jaoui, avec beaucoup de drôlerie, régulièrement, je me dis que je dois pour beaucoup à mes grosses cuisses mon empathie pour les minorités.
Ah, ça me fait plaisir que vous ayez noté cette phrase que
Elle est drôle.
Personne n'a relevé jusque-là.
Elle est très drôle.
Et qui, effectivement, me fait rire. Mais, enfin, pardon, hein, mais en tout cas, c'est vrai. Je pense que d'avoir des défauts, des manques, des défauts physiques ou des... plein de défauts, en fait, des failles, des imperfections, nous rendent plus tolérants et forcément on se met à la place de ceux qui souffrent plus facilement quand on connaît nous-mêmes telle ou telle souffrance et que voilà, comme par ailleurs j'étais plutôt dans la norme, le fait qu'il y ait un endroit qui déconne complètement, ça m'a fait poser des tas de questions très métaphysiques en fait.
Vous écrivez que vous comprenez que les hommes aient du mal à érotiser des femmes vieillissantes parce que ça peut vous arriver vous aussi avec des hommes.
Oui, oui, je comprends. Je comprends l'attrait pour la jeunesse, je comprends tout ce que ça peut symboliser de recommencer sa vie, de déni par rapport au temps qui passe. Je suis moi-même... complètement influencé par ça, mais par contre, je trouve quand même dommage d'être réduite à son âge.
Mais vous dites que la courbe de votre désir est allée à l'inverse de celle des hommes à votre égard. C'est bête, de façon très pudique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce désir?
En fait, j'ai l'impression que petite, les hommes m'ont regardée comme des animaux, avec un désir qui était bestial, pas tous, hein, mais beaucoup, et dans tous les milieux en plus. Hein, et donc, c'était incompréhensible pour la petite fille que j'étais, flatteur malheureusement par moments, mais je vous sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que c'était pas moi, c'était mon corps qui faisait quelque chose. Et qu'après, avec la même violence, le regard des hommes se détourne. Alors que, pareil, je suis pas que un corps, je suis encore une personne, en plus très belle, donc je ne comprends pas. Mais c'est avec le voilà, et que là c'est à l'inverse parce que je serais, le désir de l'autre ne me choquerait pas comme c'était le cas quand j'étais petite. Et ben, il est plus là. Pareil, dans la plupart des cas, hein, je parle de façon très générale. Et cette violence parce qu'on est réduit justement à un corps qui soit très jeune, trop vieux, trop gros, trop on s'en fout, c'est profondément dégradant, blessant, invisibilisant, oui, c'est vrai, enfin, tout ce que vous voulez, tous les termes qu'on peut, plus ou moins à la mode, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le ressentir, comme toujours.
Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.
Sacré enchaînement, Agnès Jaoui, le lundi au soleil de Claude François, puisque plus jeune, vous reproduisiez les chorégraphies des Claudettes, vous faisiez de la danse classique. Et alors, chose intéressante, que ça m'a fait penser à votre film Le goût des autres, un jour, vos parents se sont moqués de votre goût pour Claude François, et vous écrivez « Il n'y a pas plus efficace que la moquerie pour forger le goût et affirmer son amour pour un art méprisé relève d'un grand courage et d'une confiance en soi solide. »
Oui, de toute façon, la raillerie... est une arme terrible et dangereuse en plus pour parfois ce que ça peut susciter en retour, enfin bref. Oui, là aussi, ça fait partie d'un certain mépris, même si mes parents, les pauvres, ils ne pensaient pas faire autant de ravages avec leur petit rire. Mais oui, j'aime pas beaucoup ça en vérité. La moquerie, la raillerie, tout ce que ça veut dire derrière, de manque de considération complète. Et effectivement, oui, j'ai écrit là-dessus, donc je vais pas paraphraser mon film.
Est-ce que vous avez une nostalgie de l'enfance? Parce que vous décrivez notamment des professeurs atroces.
Atroces, hein?
Oh, cette Madame Boulet.
Ah, Madame Boulet était folle. Donc, elle était atroce, mais elle était tellement folle que ça nous atteignait pas trop. Alors que Madame Saout, on était sous emprise, comme on dirait maintenant. Oui. Quoi. Vraiment, elle jouait de son pouvoir de façon incroyable. Quoi. Et c'est vrai que oui, en me penchant sur ces années-là, je me dis, mais quel pouvoir ils ont quand même, ces instituteurs et ces institutrices. Et c'était quoi la question, Captain Olivier?
La question, c'était, est-ce que vous êtes nostalgique de votre
nostalgique
enfance?
Alors, je suis nostalgique d'un certain sentiment de sécurité, mais qui est recréé, je pense, parce que j'étais aussi très, très, très inquiète et angoissée, j'en parle aussi. Mais évidemment, comme c'est passé, c'est enrobé de quelque chose de rassurant.
Parce que vous racontez des moments de joie, évidemment, des moments de partage avec vos deux amies, l'une qui vous ressemble énormément et l'autre qui est l'inverse de vous, mais aussi des moments d'une rare cruauté comme on l'est quand on est enfant, comme par exemple ce camarade qui vous dit « Ton amie Isabelle, elle t'éteint, à côté d'elle, tu disparais. »
Oui, oui, bah oui. C'est pas très très gentil.
Non, mais moi, à mon entrée en sixième, on m'a dit « Plus moche que toi, tu meurs », et il paraît qu'il était amoureux de moi. Alors,
et voilà, c'est ça. Ouais. Ah, alors peut-être.
Moi,
mais effectivement, je l'ai pas pris comme ça sur le moment. Je me suis juste dit... Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il avait raison, complètement.
Hein. Bah évidemment.
Évidemment.
Bah oui, on les croit au premier degré. Oui. Mais vous avez quand même été une pionnière, puisque vous êtes entrée à Henri IV... Alors qu'on disait qu'on ne voulait pas de filles parce que ça perturbait la concentration des garçons.
Oui, que ça allait faire baisser le niveau. Ouais. Après, ils ont dit qu'il n'y avait pas de toilettes pour filles, ce qui était quand même un gros problème. Donc vraiment, tout y est passé dans la mauvaise foi. Et puis finalement, on est arrivé.
Il y a pas mal de rejets de femmes aussi, Barbara Streisand. D'ailleurs, on dit Barbara, pardon.
On dit comment? Barbara Streisand a été, oui, très méchante avec moi, mais bon, avec moi, avec la mousse qui la dérangeait alors qu'elle était en train de déjeuner avec des gens, mais c'était... Bah oui, elle était désagréable, et pourtant, je... En même temps, bon, j'en sais rien, c'est toujours embêtant de répondre à quelqu'un, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Mon amie Cécile, justement, avait une passion folle pour Barbara Streisand, et je la comprends. C'est quand même une incroyable chanteuse. Et du coup, pour elle, je suis allée lui dire mon admiration. Et je n'ai pas été très gentiment reçue, mais c'est comme ça.
Quant à votre amie Isabelle, elle a découvert les exhibitionnistes au Jardin des Plantes. Non, mais j'étais assez frappée par ce passage tout de même, qui lui demandait de l'aider à uriner.
Oui.
Oui. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez la mélancolie et la dépression.
Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct.
J'espère pas. Ce serait pratique.
Là, le livre devient ultra glauque. Oui, il y avait des exhibitionnistes plein le Jardin des Plantes. Il y en a peut-être moins maintenant. Et à part ça, donc on devait, comme le Jardin des Plantes, oui, était entre nos deux maisons, ben on devait le traverser pour aller l'une chez l'autre. Et à part ça, effectivement, Isabelle comme moi, on avait ce qu'on appelait à ce moment-là le cafard, c'est-à-dire une sorte de dépression de l'enfance, je sais pas. Enfin, et ça nous a beaucoup 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 rapprochés de savoir que et l'une et l'autre, on éprouvait cette terreur à la tombée de la nuit. Voilà.
Mais vous avez été hospitalisée tout de même à cette époque.
Ah mais j'ai pas du tout pour ça, pour l'appendicite.
Ah bon, dans la clinique de la rue Geoffroy Saint-Hilaire. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment fait un résumé là, vraiment, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de raconter.
C'est-à-dire les exhibitionnistes, le cafard, hospitalisation. Alors non.
D'accord. C'était... Et quand vous avez traduit la Bible en araméen, vous en souvenez?
Ah voilà, c'est ça. C'était pas mon livre en fait.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les strokes?
Les strokes.
Oui.
avec Barbara Streisand.
Oui, Barbara.
C'est en analyse transactionnelle, qui est un outil de thérapie, ça serait traduit par signe de reconnaissance. C'est-à-dire que, en fait, le pire, c'est, dans tout, et dans l'éducation, n'en parlons pas, c'est d'être ignoré, c'est de ne pas se sentir exister. Et quand quelqu'un réagit à ce que vous dites, que ce soit négatif ou positif, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que c'est un signe de reconnaissance. Vous avez quelqu'un qui vous répond, un être humain en face qui considère votre demande ou votre expression. Et effectivement, un stroke négatif, c'est toujours mieux que rien. Le pire, c'est le vide, c'est de juste avoir l'impression qu'on a parlé dans le vide, qu'on n'existe pas, qu'on n'est pas regardé, qu'on n'est pas considéré.
Et ça explique aussi l'attachement que beaucoup ont dans des relations toxiques.
Tout à fait.
Vous avez eu une mère psychothérapeute.
Oui.
Et vous avez assisté à des thérapies à 15 ans. Et en fait, il y a quelque chose qui frappe, c'est que vous êtes tombé des nues en voyant des adultes pleurer parce que vous pensiez qu'adultes, on était plus solides. Et dans votre livre aussi, La taille de nos seins, il y a souvent des mots comme ça qui vous apparaissent presque comme le prince des mots tordus. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre.
Non.
Qu'on a tous lu quand on était petites. Enfin, mots masturbation, appendicite, ouais. Angoisse, ça apparaît mal orthographié, comme si c'était d'autres mondes. Il y a un côté fantaisiste où vous semblez tomber des nues et dans une grande naïveté, une pureté.
Vous croyez que quand on est enfant, on croit que les...
Angoisse
Non, mais que les... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on croit que les adultes sont des adultes. Qui sont forts, qui ne connaissent pas le doute, qui peuvent pas s'écrouler et qui sont pas aussi faibles que ça. Donc oui, suivre ma mère avec mon frère d'ailleurs et dans des congrès d'analyse transactionnelle et du coup de pouvoir assister à des thérapies de groupe ou avec effectivement ça m'a fait découvrir. Un monde, derrière le masque social, assez tôt, oui.
Est-ce que vous vous sentez solide comme adulte ?
Oui, par endroits et par d'autres noms. Après, je... C'est tout.
Ok.
Ouais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Cuando descubrí que tanto Trotsky como Ramón Mercader, dos personajes reales, tenían una relación afectiva con los perros,
aussi bien Trotsky que Ramón Mercader, deux personnages réels, avaient une relation d'affection particulière envers les chiens.
Decidí convertir estos animales en un elemento dramático importante de la historia.
J'ai décidé que les chiens devaient être un élément dramatique important dans cette histoire.
Yo creo que los perros son los que revelan la historia.
Je crois que les chiens sont ceux qui révèlent l'histoire.
Porque este Ramón Mercader, viejo, vencido, enfermo, que pasea por una playa de La Habana
Parce
con
que
sus perros.
Ce vieux Ramón Mercader, tout abattu, malade, qui se promène sur une plage de La Habana avec ses chiens.
Es el personaje que a través de la pertenencia de estos perros llega a revelar toda la historia que conocemos en el libro.
C'est à travers ces chiens-là qu'il révèle toute l'histoire qui est racontée dans ce livre.
On entend l'écrivain cubain Leonardo Padura sur France Culture en 2011. Agnès Jaoui, vous avez signé le livret de l'opéra créé au théâtre de Caen, L'homme qui aimait les chiens, d'après son roman. Et l'opéra sera visible à l'Athénée du 19 au 22 février prochain, dans une mise en scène de Jacques Ozinski et sous la direction musicale de Jean Desroyers.
Oui.
Un mot sur le roman ?
C'est un roman extraordinaire qui se passe sur trois périodes, puisqu'on suit justement la naissance et la vie de Ramón Mercader, et puis l'exil de Trotsky jusqu'à son assassinat, et à travers les yeux d'un Cubain dans les années 80, qui effectivement rencontre ce vieux Ramón Mercader, on ne le sait pas tout de suite, mais autrement, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on connaît l'histoire plus ou moins de l'assassinat de Trotsky, mais malgré ça, on lit ce livre comme un roman policier. Il résonne incroyablement avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on y voit toute la guerre entre les gauches, les trahisons des gauches, et l'horreur et l'absurdité de ce qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. Donc, et puis à l'histoire du communisme. Enfin, tout est c'est passionnant. Et Fernando Fisbein, donc le compositeur, avait envie. Je lui ai fait découvrir le livre en fait, et très vite il a dit mais j'aimerais en faire un opéra. Et donc ça fait des années qu'il travaille dessus et que je collabore. Et voilà, ça a été enfin créé à Caen et c'était magnifique. Et ça sera donc 19, 20, 21 février au Théâtre de l'Athénée.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et je profite du fait que l'écrivain soit cubain puisque vous avez choisi la ville de La Havane.
Écoutez, en fait, ce qui se passe en ce moment à Cuba est monstrueux. Il n'y a plus d'électricité, il y a plus de... L'université a cessé.
Les magasins sont vides.
Les magasins sont vides. La famille que j'ai là-bas, la plus vieille dame de la famille est allée... parce qu'elle avait des problèmes au cœur avec son pacemaker, mais en fait, le docteur avait disparu, enfin, c'était enfui, donc elle a dû attendre pour en avoir un autre. Mais enfin, tout est... Les immeubles s'écroulent, c'est un peuple qui est en train de mourir, les médias en parlent peu, voilà, et quand on voit Trump dire « bah oui, de toute façon, ça va s'effondrer tout seul », enfin, comme s'il n'y avait pas des êtres humains... cet embargo est monstrueux et ce qui se passe est monstrueux. Donc j'avais, oui, envie d'en parler et de parler de La Havane. Voilà.
Oui, oui.
J'ai tant d'amis.
Je suis désolée de m'entendre en amis parce que j'ai lu une série d'articles très récemment dessus et j'étais catastrophée de voir ça.
C'est terrible.
Comment enchaîner après avoir dit ça sur Don Giovanni? Pas facile.
Alors, non, c'est pas
vous avez
facile.
Une formation de chanteuse lyrique, vous avez mis en scène plusieurs opéras et vous avez mis en scène Don Giovanni, qui sera à l'Opéra de Dijon du 19 au 25 avril, puis à Montpellier, Marseille et Tours. C'est une création de 2022. C'est Éric Ruff qui fait la scénographie, Nicolas Courjal qui fait Don Giovanni, Karine Dehaie, Donna Elvira et Vincenzo Taormina, Leporello. Eh bien, est-ce que vous voulez bien nous parler de ce personnage de Don Giovanni qui est à la fois, comme vous le dites très bien Agnès Jaoui, indéfendable aujourd'hui et pourtant auquel on peut envier sa liberté puisqu'il ne transige avec rien.
Oui, c'est-à-dire que... alors d'abord, bon, ça a été créé au septembre de cette année, pas en 22, mais ça n'a aucune importance, au Capitole. Et c'est-à-dire que ce qu'il a pour lui, c'est de pas vouloir prétendre être quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment dire, il assume sa vilainie, il est bizarrement droit dans ses bottes de goujat ou d'homme au-dessus des lois, mais encore une fois, il prétend pas être quelqu'un d'autre et il a un peu peur de rien. Enfin, à tel point que
il a pas peur de la mort en tout cas.
Non, mais ni du jugement des autres, ni de. Enfin voilà, il a une espèce comme ça, une sorte de liberté dans son mal, par ailleurs, parce que il est pas très aimable, non.
Vous avez fait une mise en scène. Très épuré, un peu crépusculaire, enfin il y a le ciel qui change de couleur, et puis il y a aussi de l'humour, et je me demandais si l'humour était déjà dans le livret d'Aponte, ou si vous l'avez ajouté, et je pense à la scène où la statue du commandeur arrive, donc Leporello est terrorisé, Leporello c'est le valet de Don Juan, il est sous la table, mais quand même il se resserre un petit coup de vin.
C'est drôle parce que, en fait, c'est un drama giocoso, donc c'est écrit comme... c'est censé faire rire. Et en fait, je ne voyais pas, moi, dans le livret, ce qu'il y avait de drôle, alors que... ou disons que ça me paraissait... enfin, voilà, une espèce de comique un peu... Et j'ai fini en travaillant, en fait, par me rendre compte que, ben non, enfin, mais me rendre compte, enfin, à lire mieux, parce que c'est écrit, il y a des tas de choses très drôles. Les personnages autour sont drôles, même dans Elvire, il y a des endroits drôles. Enfin, c'est une œuvre, à part ça, extraordinaire. Et c'est un bonheur de travailler dans cette musique pendant un an, deux ans. Mais oui, c'est aussi drôle. Ce n'est pas que dramatique.
Comment avez-vous travaillé sur les danses?
Alors, c'est important dans cet opéra. Il y a Il y a trois danses à un moment qui sont avec un orchestre sur scène et chaque danse vient d'une classe sociale différente. Et puisque c'est un moment où il y a les paysans qui sont là aussi, puisqu'il y a Zerline qui essaye de séduire Don Giovanni. Et donc, on a fait appel à un maître de ballet. Et en tout cas, c'était un moment auquel je tenais, parce qu'évidemment, la différence des classes sociales est essentiel dans cette œuvre, puisque en plus il a le droit de tout, puisque c'est un noble. C'est quand même aussi de ça qu'il s'agit.
Alors, en parlant de différence et de diversité, il y a une diversité aussi de corps, puisque on voit souvent cet opéra avec des corps jeunes, fins, et ça fait du bien de le voir avec des corps divers. C'est quelque chose auquel vous tenez, Agnès Jaoui.
C'est des corps normaux, oui.
Oui, c'est vrai, mais on l'oublie quand simplement. Même à force d'être abreuvé d'images.
C'est ça, c'est qu'on oublie que... Bon, bref, que toutes les filles ne font pas du 36. Et donc, je sais pas, ça me paraît complètement naturel et elles sont belles comme tout.
Mais ça, c'est, je le confirme, mais je suis loin de faire du 36.
On m'avait dit qu'il suffirait de te quitter, de m'éloigner de ton quartier pour vivre un éternel été. Si c'était vrai qu'on a besoin de vrai soleil, on ne peut pas se réchauffer à des lumières artificielles. Dis, est-ce que j'emmènerais mes nuages si j'allais vers d'autres rivages pour y déposer mes bagages? Plus légère si j'allais au bord de la mer, s'envolerait-elle dans les airs? Il faut l'admettre, sur nos épaules tant de tempêtes. Ici la vie n'est plus une fête, d'orage gronde sur nos têtes. Je dois l'avouer, t'abandonner m'a tenté. Tu es si fière sous tes grands airs, n'aurais-tu plus rien à donner? Pour y déposer mes bagages. Dis, pourrais-je quand même te retrouver si la joie venait à manquer, si malgré tout le ciel sombrait?
Agnès Jaoui, on entend le morceau « Quitter Paris » sur votre dernier album « Attendre que le soleil revienne ». Vous serez d'ailleurs en concert sur la scène de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts le 7 mars. Et ce n'est pas anodin puisque vous avez chanté en espagnol, en portugais, en hébreu, en arabe et là en français. Et vous dites que vous vous sentez beaucoup plus mise à nu.
Disons que chanter dans d'autres langues, d'abord, souvent les gens ne comprennent pas les paroles, donc évidemment ça vous protège de tout message. Et puis, je joue plus à quelqu'un d'autre. À une fadiste quand je chante en portugais, ou à une ténébreuse andalouse en espagnol, etc. Alors que là, oui, c'est du français, tout le monde peut comprendre. C'est des mots que j'ai écrits.
Vous dites ça d'un air presque déçu.
Non,
des mots que j'ai écrits.
Non, mais... je sais pas, c'est... oui, c'est des mises à nu, plus fortes que quand, pareil, j'écris un film, parce qu'il y a des personnages qui vont interpréter ce que je dis.
Alors, en parlant d'écriture de film, je crois que le prochain s'intitulera L'objet du délit. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Bah, ça se passe justement pendant la mise en scène des Noces de Figaro, de Mozart. On reste dans l'opéra. Et puis, il va se passer une agression. Enfin, voilà. Enfin, il va se passer un incident qui fait que les choses vont être remises en cause. Ça parle de notre époque, on va dire.
La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature ?
Comment vous vous sentez ?
Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre.
Ah bon ?
Faut que je reprenne goût à la vie.
Agnès Jaoui, je voulais qu'on entende la bande-annonce de Ma vie, ma gueule, qui est sortie, hélas, après la disparition de sa réalisatrice Sophie Filière, parce que vous faites le rôle principal et que j'ai absolument adoré ce film, qui est tragicomique, mais qui est d'une drôlerie extraordinaire, et vous faites une femme perdue, ou alors peut-être trop lucide, je ne sais pas.
Les deux.
Ouais, les deux.
Mais, oui, c'est... moi aussi j'ai aimé tellement ce film, le faire... Sophie, enfin, c'est vrai que c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup et qui est tellement... tout ce que vous avez dit, lucide, poétique, une lucidité, mais pas larmoyante. Enfin, il y a toujours une sorte de recul sur les choses et c'est vrai que c'était une drôle d'aventure.
Con dolor en el alma, me voy de tu lado. No quisiera marcharme, pero lo hago por ti.
C'est votre choix musical, Agnès Jaoui, Con el dolor en el alma, d'Eliades Ochoa.
Oui, mais on est encore à Cuba. Avec justement cette mélancolie incroyable qu'on ressent dès qu'on entend et la voix d'Eliades Ochoa et ses rythmes. Et puis voilà, pouf, il se met à danser quand même. C'est ça qui est incroyable dans ces musiques que j'aime tellement, c'est que ça justement charrie la tristesse et la joie dans le même temps. Et puis encore une fois, mon cœur est à Cuba.
Et quel est votre rapport à la mélancolie ?
J'aime bien cette définition de la joie d'être triste. Oui, je crois que c'est mon deuxième prénom, Mélancolie. Oui.
Gli occhi di chi io parlai si caldamente, e le braccia, e le mani, il delicato collo.
Quando mai due amanti in furore si preoccupano della buona educazione?
1976, la bande-annonce du Casanova de Fellini avec la musique envoûtante de Nino Rota. Alors, je dois signaler aux auditeurs, mais je leur avais déjà dit, mais pour ceux qui ont raté l'émission où j'en avais parlé, que le site La Cinéthèque, c'est formidable et qu'on peut voir tous les films préférés des réalisateurs. Et alors, dans la liste de vos films préférés, Agnès Jaoui, il y a ce film qui est merveilleux. Mais j'ai remarqué que les gens l'adoraient ou le haïssaient.
Ah, il y a des gens qui haïssent ?
Ah oui.
Enfin, sûrement, c'est idiot.
Ça ne laisse pas du tout indifférent.
Oui, La Cinéthèque, c'est formidable et c'est les réalisateurs et réalisatrices du monde entier qui donnent leurs 50 choix préférés, ce qui fait qu'on découvre des œuvres de Taïwan, de Russie, je recommande aussi chaudement. Le Casanova de Fellini, 76, je l'ai vu à sa sortie, je me souviens que je passais tout juste, parce que ça devait être interdit au moins de 13 ans. Et je l'ai revu plus récemment en me disant pourvu que non, mais c'est aussi extraordinaire que quand je l'ai découvert, si ce n'est plus. c'est fou d'arriver à faire cette beauté-là. Tout est beau en plus, parce que c'est vrai que cette rencontre avec Nino Rota, c'est quand même quelque chose. Ah oui, je comprends que ça laisse pas indifférent, mais quand même.
Oh non, mais je le recommande aussi. Et puis ceux qui seront attentifs verront un dessin de Topor. Merci beaucoup, Agnès Giraud.
Merci à vous.
L'opéra L'homme qui aimait les chiens, dont vous signez le livret d'après le roman de Leonardo Padura, sera au théâtre de l'Athénée du 19 au 22 février prochain. L'exposition La taille de nos seins, conçue avec la peintre Cécile Partouche, est visible à la galerie Cinéma à Paris jusqu'au 28 février. Pour ceux qui ne pourront s'y rendre, un livre a été publié par les éditions Grasset. Le 7 mars, vous serez en concert sur la scène de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Et Don Giovanni, c'est à Dijon du 19 au 25 avril, puis à Montpellier, Marseille et Tours. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Laurent Baudouin.